beaucoup à l'équipe de louanges, à Georges, qui a conduit ces moments. J'avoue que je suis très impressionné, très marqué par votre dynamisme, votre louange. Et là, je me dis, ça y va. Ça y va, ça y va. Et vraiment, j'ai pas pu rencontrer beaucoup de personnes, mais tous ceux que j'ai pu rencontrer, j'ai eu du plaisir à le faire. Et c'est tellement bon de pouvoir partager. Bon, moi, je suis là, mais j'ai tellement besoin de vous entendre, de vous écouter. Savoir ce que vous vivez, ce que vous... Alors des fois, on me dit des mots comme ça. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure, il me parle, il me dit, ouais, moi j'ai retenu une chose, mais tu as raison, hein, parce que les prédications, il y a des moments où ça nous gave. Hein. Alors je tiens à préciser une chose. Non, mais je tiens à préciser. Oh, si, on me l'a dit, ça. On me l'a dit. Moi, j'ai pas dit ça. Voilà. Non, mais je comprends. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Alors, je vais repréciser ma pensée. Mais c'est... Je comprends qu'on puisse me le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Ça veut dire, bah oui, on vient semaine après semaine, mois après mois, et quelque part, comme si on nous gavait, mais c'est pas péjoratif, comprenez ce que je veux dire? C'est pas péjoratif. Comme si on nous gavait de prédications, et puis on n'en fait rien. Parce que on reçoit des prédications les unes après les autres. Et c'est là où je crois qu'on a vraiment besoin de se poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que je suis un disciple? Hein? Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question en disant « Combien de disciples tu es en train de former ?» Et là, c'est vrai que j'ai vécu un moment de... Donc, maintenant, on va reposer l'autre question. On va dire « Là, maintenant, tu penses à qui ? Qui tu vas former, maintenant ?» Je pense, vous voyez, peut-être en tant que pasteur, en tant que... dans le ministère, les cinq ministères, c'est bien de pouvoir se dire « Ah, celui-là, il faut vraiment que je passe du temps avec lui. Je vais m'investir. Je vais lui donner tout ce que j'ai, je vais lui faire part de mon vécu. Je vais partager avec lui. » Mais très souvent, dans les églises, on a invité les gens à dire « Soyez les témoins de Jésus. » Oui, non, mais bien sûr. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut apprendre aux chrétiens qui sont dans les églises que ça ne s'arrête pas là. Tu as la charge de parler de Jésus, mais une fois que tu l'as amené à Jésus, ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de l'église. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est ta responsabilité si tu l'as amené à Jésus, c'est ta responsabilité d'en faire un disciple de Jésus. Et si on commence à enseigner les chrétiens dans les églises en leur disant, attendez, arrêtez de penser que c'est tout va se passer dans l'église, vous amenez les gens, et puis nous, on fait le boulot. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi? C'est acte 2, 47, c'est ça? Le Seigneur rajoutait... Redis-moi le texte. Ah, au moins il y en a un qui ose le dire. Parce que c'est le seul verset qu'il connaît. Il rajoutait, écoutez bien, il rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que ceux qui étaient sauvés se rajoutaient à l'Église. Nous, très souvent, on est dans le sens contraire. On dit, viens à l'Église pour être sauvé. Attendez, on rajoutait, le Seigneur rajoutait à l'Église. Vous lisez bien comme ça, hein, c'est... Oui. Rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que c'est vraiment le job du disciple d'amener quelqu'un à Jésus. Et puis, tu n'es pas là pour simplement écouter les messages les uns après les autres. Tu es là parce que tu entres dans le service de Dieu. Nous sommes au service du Maître et notre service, c'est de l'amener ensuite à être un véritable disciple. Et c'est évident que je ne peux pas en faire un disciple si je ne suis pas un disciple. Et voilà. Mais c'est une autre façon de voir peut-être l'Église. Et c'est un autre... Peut-être ça va bouleverser, chambouler certaines choses. Alors, moi, je ne suis pas en train d'amener une révolution. Je n'ai pas envie d'amener une révolution dans les églises. Je suis simplement en train de vous proposer d'avoir une autre perspective, une autre façon de voir. Parce que très souvent, notre culture, c'est une culture, malgré nous, qui est pastorocentrique. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est le pasteur qui sait. C'est le pasteur qui enseigne. C'est le pasteur qui prophétise. C'est le pasteur qui fait un appel. C'est, vous voyez, le fait même. Alors je suis pas contre les estrades parce que si je me mets en bas. Encore moi, je suis grand, vous me voyez, mais si Georges est là, vous le voyez pas. Donc, même si c'est un grand homme, hein, et pour moi, c'est un grand homme. Mais, vous voyez, regardez, même sur un plan purement organisationnel, j'ai cet après-midi. Combien on est? 150, 180, j'en sais pas. Donc j'ai 360 yeux fixés sur moi. Je sais pas si vous voyez, c'est impressionnant. Enfin, je suis en train de trembler là. Donc, mais je veux dire que tout notre système est très souvent basé sur c'est le pasteur. Ça repose sur lui. Au point même que après, ben, on est étonné qu'il fasse pas le ménage quand même. C'est... Et que nous sommes pas dans un système pastor-centrique, nous sommes dans un système, si jamais c'est un système, christocentrique. Et si nous sommes des disciples de Christ, alors nous ne fixons pas les regards sur les ministères eux-mêmes. Les ministères sont là pour nous équiper. Des fois, je passe dans certaines églises et je, pour eux, si vous voulez, alors il n'y a pas longtemps, on m'a fait cette remarque. On m'a dit, mais dans notre église, pour le moment, on n'a pas de pasteur. Il y avait eu certaines circonstances. On n'a pas de pasteur. Et vous savez, nous, il faut... Parce que qu'est-ce que les autres peuvent penser dans la ville? Quelle est maintenant notre notoriété? On ne sait plus à qui s'adresser. Je leur ai dit, je lui ai dit, mais attendez, bon, c'est une situation comme ça, mais c'est une chance. Il m'a dit, comment c'est une chance, vous vous rendez compte, on a perdu notre pasteur. Je lui ai dit, oui, mais c'est une chance, parce que vous allez vous mettre au boulot. Ceci dit, je crois, moi, quand Paul écrit à Tite, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit dans l'île de Crète, établis des anciens. Il dit pas établis des pasteurs. Parce que les pasteurs ou les apôtres passaient, parce que dans l'île de Crète, on peut imaginer qu'il y avait à peu près une vingtaine de lieux d'église. Mais on établissait des anciens. Et les pasteurs, les ministères passaient, équipaient, puis Il y avait un ministère pastoral, il y avait un ministère prophétique qui passait, puis il équipait, puis il passait à l'autre ville. Mais on a une culture pastorale de l'Église. Alors, attendez, je suis pas contre le fait du tout, ne me faites pas dire ça. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui sont dans les Églises, comprenez ce que je veux dire. Mais ça a faussé notre vision. Ça a faussé notre vision. Et si nous faisons des disciples dans l'Église, qui font des disciples, c'est pour ça que Paul écrit en disant « Ce que je t'ai enseigné, enseigne-leur à d'autres qui pourront l'enseigner encore à d'autres. » C'est ça la parole. D'accord ? Donc, nous sommes dans cette culture. Moi, je suis pas, je vais peut-être, là encore, pardonnez-moi, mais je connais la culture ecclésiale. Mais il me semble que nous avons besoin d'être renouvelés dans une vision de la culture du royaume de Dieu. Je ne dis pas que, bien entendu, je ne suis pas contre l'organisation. Je ne suis pas contre la structure. Je ne suis pas contre la relation avec ce qui est institutionnel. Mais c'est pas ou ça, c'est ça et ça. Nous sommes dans un mouvement d'église où nous sommes complètement engagés auprès de la Fédération protestante, auprès du CNEF. Il n'y a aucun problème. Mais nous voulons avoir une culture du royaume et vivre cette culture du royaume. Alors, quand je parle de la culture du royaume, j'ai toujours l'impression que c'est pas toujours... Alors, j'aurais certainement pas le temps, parce que je crois que j'ai été trop gourmand dans mon programme, j'aurais pas le temps d'aborder même toutes ces questions-là. Mais simplement 2-3 points. C'est quoi le royaume ? On pourrait se retourner 3 par 3 et puis discuter en disant c'est quoi le royaume ? Royaume, quand on parle de royaume, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le royaume de Dieu, c'est le règne dynamique et actif de Dieu dans toutes les sphères de la société. C'est-à-dire que, heureusement pour nous, Dieu n'est pas seulement présent ici et dans ce lieu. Dieu ne veut pas manifester sa gloire uniquement dans un lieu d'église. Et très souvent, là, dans nos discours, là, dans notre langage, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Si tu viens, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Mais on a l'impression que tout se passe ici. Beaucoup de choses se passent dans des lieux comme celui-ci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Merci Seigneur pour ce que nous vivons dans l'esprit. Merci Seigneur pour la diversité des ministères. Merci mon Dieu pour ce temps où nous avons des enseignements, où nous avons la fraction du pain. Merci pour ce temps où nous connaissons cette communion fraternelle. Bien entendu. Mais moi, je crois, il me semble que c'était Ellul qui disait ça, que Dieu est présent dans un monde sans Dieu. Mais Dieu veut manifester sa présence dans tous les domaines. Il n'y a pas un lieu, un endroit où Dieu ne veut pas manifester sa présence. Nous sommes très souvent avec un évangile qui est réducteur. Alors que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile qui nous élargit. Jésus, fils de Dieu, le sauveur du monde, n'a pas établi un lieu et un endroit, un espace en disant « Écoutez, moi maintenant, je me tiens là, venez tous ici. » Jésus est allé ici, là, ailleurs. Il a rencontré des hommes, des femmes. Il les a bénis, guéris, délivrés. Jésus est allé. Il a été envoyé. Avec le mot envoyé, on est toujours un petit peu borderline là. Parce qu'on pense que l'Église, c'est celle qui envoie. Pardonnez-moi, mais c'est pas tout à fait biblique. Je crois que Dieu veut envoyer l'Église. Et c'est pas l'Église qui envoie. C'est Dieu qui envoie l'Église. Faites partie de l'Église? Qui fait partie de l'Église? Bienvenue au club, vous êtes tous envoyés. C'est ça le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, très souvent, on a vu uniquement cette, on l'a réduit à un aspect purement cultuel. Je mettrais ça même, entre guillemets, spirituel. Tout à l'heure, je sais plus avec qui on parlait, mais on est amené à parler de, je sais plus, de, ah oui, boire une bonne bière avec toi. Et puis après, moi j'ai enchaîné en disant, ouais, mais en fait, de toute façon, le premier miracle de Jésus, non mais attendez, alors, vous savez, là on est très fort, là. Là-dessus on est très fort. Vous n'avez pas remarqué? On est très fort. Parce que même quand Jésus fait des choses tout à fait, j'allais dire, matérielles, Jésus explique même pas, il donne pas des leçons spirituelles, vous savez, j'ai changé l'eau en vin, parce que la couleur rouge fait que... Attends, vous savez, c'est un tout petit peu comme quand on a des interprétations, vous n'avez pas lu, moi j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, sur les interprétations du Cantique des Cantiques. Moi, excusez-moi, mais le Cantique des Cantiques, alors s'il y a des oreilles chastes, fermez vos oreilles, mais le Cantique des Cantiques, c'est un poème érotique, point barre. Comme si Dieu était opposé. Hein? Il est? C'est ton problème. Mais vous voyez, il y a des moments où on veut donner des interprétations spirituelles alors qu'on n'a pas besoin de donner des interprétations spirituelles. Pourquoi? Mais parce que je crois que Dieu est aussi, comment dire, moi j'aime me rappeler que Jésus s'est incarné. Et que c'est Michel Henry qui est un théologien catholique qui dit ceci, que l'Église est l'effectuation continue de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il rend effectif cette incarnation. L'Église est là pour... très souvent, si vous le permettez, j'ai le sentiment que l'Église a besoin de s'incarner. Je crois aux visions. Je crois à la révélation. Je crois à la conduite de l'esprit, je crois à la direction de l'esprit. Mais je crois aussi que nous sommes des hommes et des femmes avec nos activités, avec notre vie de couple, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos voitures qui tombent en panne, sauf si on a une Mercedes. Mais je crois qu'on a besoin de comprendre ce que veut dire l'incarnation. Et le royaume de Dieu, le royaume de Dieu nous place vraiment dans l'incarnation. Parce que Dieu veut agir dans tous les domaines de la vie. C'est pas simplement je suis ici et là maintenant je suis spirituel. Dès que je franchis la porte, alors maintenant je suis dans le domaine matériel. Non, non. Pour moi c'est toujours spirituel. Et c'est toujours aussi matériel. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Et le royaume de Dieu, c'est l'action, l'œuvre de l'esprit dans toutes les sphères de la société. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous sommes engagés, c'est pour la gloire de Dieu. Et il n'y a pas, écoutez bien, le drame très souvent dans nos églises, c'est que nous avons d'un côté l'association cultuelle qui s'occupe du culte, et puis alors on a des petites associations, des petites œuvres là, c'est pas l'église ça. Mais si une œuvre est la continuation de l'église. Et nous avons, et pour moi, c'est l'église. Et pour moi, c'est le royaume de Dieu. Quand vous vous occupez des pauvres, est-ce que c'est pas le royaume de Dieu? Quand vous allez servir des hommes ou des femmes dans tel ou tel domaine, vous les soignez, vous les aidez, vous les accompagnez, mais c'est le royaume de Dieu. Quand vous allez prendre votre travail le matin à 8h15, parce que vous êtes en retard, mais est-ce qu'en travaillant là, vous le faites pour la gloire de Dieu? Parce que votre témoignage, ce que vous êtes avec vos valeurs, vous manifestez la gloire de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, alors je reviens, oui, mais j'aime bien discuter avec les uns avec les autres, parce que moi, ça me permet de prêcher. Mais tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui a une petite entreprise. Et j'avais le sentiment, en écoutant, que c'était vraiment une personne engagée, qui aime le Seigneur, et qui a sa petite entreprise. Et je lui dis, mais est-ce que tu as un accompagnement apostolique? Ah oui, on prie pour moi. Non. Non. Est-ce que tu as un accompagnement apostolique? Voyez-vous, pour moi, dans une église, tous ceux qui ont une entreprise, par exemple, il y a plein d'autres choses, hein, je pense c'est simplement ce point-là, mais on pourrait citer bien d'autres choses. Tous ceux qui ont une entreprise, quelle qu'elle soit, devraient avoir un accompagnement comme on accompagne un disciple, comme on accompagne un ministère, parce que je crois que être dans une entreprise aujourd'hui, mais mes amis, on peut le voir comme étant une porte ouverte pour la manifestation du royaume de Dieu, parce qu'on va voir les valeurs de l'employeur, on va voir la justice de l'employeur, on va voir sa relation avec les employés, on va voir la qualité qu'il veut, on va voir le relationnel qu'il a avec les clients, on va voir ses projets, on va voir sa vision, et on va se dire, mais là, il y a quelque chose de particulier, il y a l'œuvre de Dieu qui se fait. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et moi, j'encourage tous ceux qui, dans une église, ont des entreprises, d'avoir un accompagnement apostolique. Je suis pas un expert. Moi, je sais pas réparer une voiture. Je sais pas couper un morceau de viande. Ça, je sais pas faire. Ça. Je suis pas un expert. Mais ensemble, on va essayer de réfléchir. On va prier. Mais on va réfléchir ensemble, on va travailler. Quelle est ta vision pour l'œuvre de Dieu? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu as des valeurs, là? Moi, des fois, on parle d'une entreprise chrétienne. Mais ça n'existe pas, une entreprise chrétienne. C'est une entreprise dont le patron ou la patronne est chrétien, oui. Mais qui a des valeurs, oui. Qui a une vision, oui. Qui a une stratégie, oui. Vous savez, j'accompagne une toute petite église dans la vallée du Rhône. Et puis un beau jour, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une vingtaine. Un beau jour, je leur ai simplement dit, comme j'ai pu dire à Antoine, il faut que tu ouvres une église à Lille, je leur ai dit, vous devriez vous occuper des pauvres. Et ils m'ont pris au mot. Et ils ont commencé à mettre en place une petite épicerie solidaire pour les pauvres. Et ils avaient une pièce de, je sais pas, allez, 15 mètres carrés pour commencer. Quinze ans plus tard, ils ont un entrepôt de 2500 mètres carrés, 14 employés à plein temps, et ils servent 800 familles par semaine. Ils fournissent d'autres plateformes, Ils fournissent d'autres épiceries solidaires. Et je les accompagne. Parce que j'estime que ça, c'est le royaume de Dieu. Je ne les accompagne pas sur le plan expert. Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je ne connais rien du tout dans l'épicerie solidaire. Je ne sais pas sur le plan comptable, sur le plan juridique. Je ne sais pas. Mais leur œuvre est le prolongement de l'Église. L'Église, c'est l'œuvre et ils manifestent le royaume de Dieu. Vous voyez, on a besoin d'avoir cette vision-là, on a besoin d'avoir cette compréhension-là concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on a des valeurs dans le royaume. Et on a besoin de définir quelles sont les valeurs du royaume de Dieu pour nous dans cette ville. On a besoin de se dire que nous sommes là pour non seulement restaurer les vies, réformer l'Église, mais impacter la ville. Ceux qui sont dans cette ville ne savent même pas qu'on existe, alors ça veut dire qu'on est simplement dans notre bocal, qu'on se fait nos petites réunions, de temps en temps, on a même des prophètes qui nous prophétisent. Comment vous dire ça sans vous fâcher? Parce que à force de se prophétiser à soi, on est dans un circuit fermé. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, 15 ans, on est encore dans la situation où il y a un prophète qui passe. Est-ce que je vais avoir ma parole? Comment s'appelle votre prophète? Madame Irma. Mais on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Or, je voudrais vraiment vous inviter à ce qu'on puisse prier pour que des prophètes se lèvent et prophétisent sur le pays. Prophétisent au niveau du gouvernement. Prophétisent au niveau de la ville. Je pense que nous avons vraiment besoin d'une restauration totale du ministère prophétique. Et quand on fait le point... Alors, comprenez bien ce que... Je répète encore une fois, j'aime les prophètes. Mais très souvent, on confond. Et les prophètes ont très souvent plus de paroles de connaissance qu'ils n'ont de prophétie. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Et quand je dis ça, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, on intercède. On intercède pour les prophètes. Pour que des prophètes se lèvent et pour que les prophètes qui sont aujourd'hui considérés comme des prophètes puissent prophétiser sur la nation. Faites de toutes les nations mes disciples. Il y a une différence entre prophétiser et être un prophète. Pourquoi je vous dis ça? Je partage ça. Parce que je crois profondément que nos églises sont sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et que cette restauration de la vision du royaume de Dieu pourra être transmise particulièrement au travers des apôtres et des prophètes. Mais on a besoin de cette restauration-là. On a besoin de cette compréhension-là. Alors, je vous disais, mais... dans ma culture du royaume, pour moi, il y a quelque chose de fondamental. Et je sais, je l'ai déjà dit ce matin, mais je vais le redire. C'est cette notion, cette compréhension de aller. Il faut que l'on travaille cette culture. Je voudrais vous inviter, dans les jours qui viennent, à vous trouver avec vos équipes, à vous trouver avec des responsables, et de repasser en revue tout ce qui peut être fait dans un programme d'église, en se posant la question, est-ce qu'on est dans le venez? Venez. Venez, 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 on a une réunion formidable. Venez, on a un programme formidable. Venez, venez. Vous savez, quand vous dites à des gens, venez, qu'est-ce qui se passe? Vous, vous êtes habitué à vos salles de culte. Mais les gens ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués du tout. Et très souvent, on leur demande de se transférer d'une culture qui leur est propre à une culture d'église. Nous, c'est normal, naturel. Pour beaucoup, c'est un choc. Moi, si j'étais pas chrétien, vous m'accostez dans la rue pour me parler de Dieu, je vous dirais dégage. Dégage, tu vas pas me gonfler avec tes histoires. J'écouterai même pas. Bon. Notre société est passée de la croyance à l'incroyance et de l'incroyance à l'inculture. Notre société n'a aucune culture concernant le religieux. Et nous, on leur dit, venez dans notre église. Mao. C'est-à-dire, on se moque éperdument de votre culture, venez vous plonger dans notre culture. Alors, mon point de vue, c'est, s'il y en a un qui doit faire l'effort de changer de culture pour aller sur la culture de l'autre, c'est nous. Nous avons besoin d'être capables de changer de culture, c'est-à-dire d'aller dans la culture de l'autre. Un exemple. Vous êtes allé déjà à l'hôpital ? Moi, j'y suis allé quelques fois. On en a parlé ensemble. Et moi, il y a une chose qui m'insupporte. C'est que quand vous allez dans un hôpital pour subir une opération quelconque, c'est pas trop votre milieu, vous connaissez pas, vous arrivez là, regardez un peu comment ça se passe, et puis il y a l'infirmière qui arrive et qui vous dit, monsieur, c'est dans votre chambre, ici. Vous entrez, vous vous déshabillez, et vous mettez ça pour... Et là, vous dites, je me déshabille, mais je garde quand même... Non, vous gardez rien! Bien, bon. Oui, et vous mettez cette chemise-là. Oui. Et à ce moment-là, l'infirmière vous dit, vous allez passer une radio, mais il faut descendre tous les étages, vous allez dans l'autre bâtiment. Et là, je vous assure, vous rasez les murs. Qui a vécu ça ? Moi, je peux vous dire que parfois, quand on vient dans certaines salles, on rase les murs. On rase les murs parce qu'on n'est pas, les gens sont pas dans leur culture. Il y a pas longtemps, j'étais dans une église. Et moi, la première chose que je fais quand je rentre dans un lieu de culte, je regarde tout. Je regarde tout parce que je dis si je viens pour la première fois, quelle va être la réaction de la personne qui vient pour la première fois. Et là, il y avait à l'entrée un panneau, un gros panneau. El Shaddai. Alors, il y a des gens qui se sont posé la question, est-ce que c'est le retour du Shaddai? Non, c'est le retour de... Ça, il faut expliquer ça à Antoine parce qu'il n'a pas de culture cinématographique. Mais... Mais mes amis, je vous assure, regardez attentivement. Mais dans certaines églises, moi je veux bien, hein, j'ai pas de souci. Dans certaines églises, j'arrive et je peux entendre. Il y a un grand drapeau d'Israël, magnifique. Mais moi, je me dis, si jamais il y a un Palestinien qui vient, mettez au moins à côté un drapeau palestinien. Mais alors, attendez, moi je veux aussi que les Palestiniens soient sauvés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, il y a une question de si les gens viennent et qu'ils voient des choses qui les choquent. Il y a quelque temps, j'étais entré dans une église, dans un local d'église. Et là, le pasteur avait été très inspiré. Il avait mis des grandes affiches avec des animaux. C'est-à-dire qu'il y avait un lion. Mais bien entendu, nous, ça nous parle, un lion. Ah, quand même. Il y avait un agneau. Il y avait un aigle. Ah, c'était magnifique. Et je lui dis, mais tu as pas peur que les gens pensent qu'ils sont chez un vétérinaire? Non mais, attendez, bien entendu, lui, ça faisait 20 ans qu'il venait là, il est habitué. Et puis les gens qui sont là, ben pour eux c'est normal. Ils savent le lion de Juda. Oui, on est d'accord. Mais attends, ça démontre que tu n'es pas tourné sur l'extérieur. Tu es toujours dans ton truc. Tu es dans ton affaire. Et voyez-vous, et là ce que je suis en train de partager, mais c'est basique. Mais dans tout ce que nous faisons. Dans notre programme d'église, est-ce que nous sommes dans le venez ou est-ce que nous sommes dans le allez? Il y a quelque temps, dans une autre église, on dit après le culte, on a les traditionnels agapes. Alors. On dit, on a les agapes. Je dis donc, vous avez invité vos voisins et vos amis? Non, c'est entre nous. Vous voyez, mais on le fait tous, ça, d'accord? Mais quand je vous partage ça, c'est pas pour me moquer. Parce que, vous comprenez? C'est simplement pour vous dire, mais vous voyez, dans les moindres des détails, on n'est pas ouvert sur l'extérieur. On n'est pas dans le « allez », on est dans « venez, venez, venez ». Et encore, des fois, on n'est même pas dans le « venez ». On dit « ça, c'est nous, ça, c'est nous, ça, c'est nous, ça, là, c'est nous ». Terrible, ça. Terrible. Mais le royaume de Dieu. Moi, je crois que le royaume de Dieu, c'est pour impacter notre société. C'est de pouvoir faire que, dans le milieu politique, des hommes puissent entendre la véritable parole de Dieu. Il y a quelque temps, j'étais dans l'avion, et juste à côté de moi, il y avait un artiste très connu. Vous l'entendez régulièrement chanter, et vous le voyez à la télévision régulièrement. Et je disais, Seigneur, il faut vraiment que je puisse parler à cet homme. Si je suis à côté, Seigneur, donne-moi une parole, s'il te plaît, pour lui. Donne-moi une parole pour lui. Et quand on est descendu de l'avion, on est descendu ensemble, j'ai dit, excusez-moi, je vous prends quelques instants. Est-ce que vous acceptez que je puisse vous parler? Il m'a dit oui, bien sûr. J'ai dit, écoutez, je me suis tout de suite présenté. J'ai dit, écoutez, je suis pasteur et dans l'avion, je priais pour vous. Regardez, il m'a dit, ah, bah, c'est bien. J'ai dit, oui, mais j'ai reçu quelque chose pour vous. Ah, allez-y. Alors, je lui ai dit ce que j'avais reçu. Je lui ai dit, ça vous parle? Il me dit, oh oui. Ok. Vous avez mon nom, vous savez qui je suis, si vous voulez, vous me rappelez. Mais que Dieu touche les artistes. Que Dieu touche les artistes. Nous avons dans nos églises, vous savez, des hommes et des femmes avec des capacités fantastiques. Dieu les a placés dans ce domaine-là. Dieu les a placés dans cet autre domaine. Et nous, parfois, vous savez, on a un couloir là, et il faut que tout le monde passe par le couloir. Moi, je me rappelle tellement, j'ai le souvenir d'un de mes amis qui était tellement doué sur le plan musical, tellement doué sur le plan du chant et qui avait vraiment un appel de Dieu pour ça. Et à cette époque, dans la fédération dans laquelle il était, on lui a dit, bah écoute, hein, si tu veux servir Dieu, il y a un truc, t'es pasteur. Et non, mais moi je veux chanter, j'ai un don. Non, attends. De toute façon, tu veux servir Dieu, il y a... T'es pasteur. Et ça a été un drame, parce qu'il n'était pas dans son appel. Nous avons besoin de discerner les appels des uns et des autres, pas seulement dans les cinq ministères, parce que tu as un appel dans ton entreprise. Tu as un appel dans ton entreprise. Vous savez, j'ai eu le... vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Ed Silvoso? J'ai pu le rencontrer un jour. Alors, il était sur la côte, et il était venu spécialement, alors on n'est pas sur la même planète, c'est évident, mais il était venu spécialement pour prier pendant une semaine avec sa femme pour la famille princière de Monaco. Je ne connaissais pas. Mais je l'ai pris dans ma voiture, on est partis ensemble, je vous passe les détails. Mais ça remonte à plusieurs années en arrière. Et pour moi, ça a été un impact dans ma vie. Il m'a partagé sa vision du royaume. Et lui considérait avec beaucoup d'attention ceux qui, dans l'entreprise, pouvaient avoir un appel au ministère. C'est-à-dire que il avait par exemple un banquier qui, dans la banque, était convaincu par l'Esprit de Dieu qu'il était le pasteur de cette banque. Et il se positionnait en tant que pasteur de cette banque. Il était le patron de la banque, mais il était le pasteur de la banque. Et il a commencé à mettre, vous rendez compte, dans une banque, des valeurs, les valeurs du royaume. Au point que, quand quelqu'un avait un compte rouge, hein, on dit comme ça, l'employé le convoquait. En disant, monsieur, alors c'était, là-bas c'est donc en Argentine, donc c'est pas monsieur Dupont, c'était monsieur Dupontes. Voulez-vous passer à la banque? Et le gars venait, arrivait tout tremblant, en disant, oh là là là, le banquier qui me convoque, je sais pas si vous aimez ça, mais enfin bon, voilà, convoque, et tout tremblant, en disant, voilà, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Et l'employé avait pour ordre de dire, bah, écoutez, voilà, vous savez, votre compte est en rouge, là, oui, non, mais écoutez, je vais faire ce qu'il faut, enfin, non, mais vous inquiétez pas, écoutez, on va vous proposer une chose. Si vous voulez, nous avons, plusieurs personnes dans la banque qui prient, et on va, si vous le voulez, hein, si vous le voulez, mais on peut prier pour vous pour que Dieu règle vos problèmes. Par contre, il y aura une petite condition, c'est que après, si vous voyez que Dieu répond à la prière, on aimerait bien que vous puissiez donner, voyez, votre vie à Dieu. Le gars revenait 2 mois après. Il y avait tout un groupe d'intercession qui avait prié pour ce client-là. Le Seigneur répondait. Et cet homme, parce qu'il avait compris que Dieu répondait à la prière, se tournait vers Dieu. Et je pourrais vous citer bien des exemples comme ça. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est pour moi, dans l'accompagnement apostolique et prophétique, dans ce qu'on considère comme le royaume de Dieu, on reconnaît les ministères aussi dans les entreprises. Je crois que dans les entreprises, il y a des apôtres. Je crois que dans les entreprises, il y a des prophètes. Je crois que dans les entreprises, il y a aussi des pasteurs. Mais mes amis, rien que ça, et ça c'était, vous voyez, c'est même une toute petite introduction, ça. Vous comprenez que ça, c'est quelque chose qui nous ouvre les portes. On dit, mais Seigneur, mais c'est vrai, mais vivre ça, c'est formidable, c'est extraordinaire de vivre cette façon-là, de vivre l'évangile de cette façon-là. Ça, c'est le royaume de Dieu. On pourrait donner encore peut-être bien des exemples, mais on doit terminer. On va terminer là. J'allais simplement terminer en vous disant « Ad majorem Dei gloriam ». Ad majorem Dei gloriam ? Vous savez pas ce que c'est ? Ad majorem Dei gloriam, c'est la devise des jésuites pour notre brave François. Et ad majorem Dei gloriam, que tout soit fait pour la gloire de Dieu, encore plus, ça veut dire encore plus de gloire de Dieu. Moi, je suis jésuite. Hein. Non, pas tout à fait. Mais je veux simplement dire, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, que ce soit dans ce lieu, dans un autre lieu, que ce soit là où nous travaillons, que ce soit avec nos voisins, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous voulons... Alors, quand on parle, très 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 sincèrement, quand je parle du royaume de Dieu, j'aime bien avoir 3 semaines devant moi pour en parler, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à découvrir dans le domaine du royaume de Dieu. C'est tellement... Ça libère le royaume de Dieu pour moi. La compréhension du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui nous libère. Et vous savez, le fait de dire « Venez, vous ne libérez pas ». Le fait de dire « Venez, viens, viens dans mon truc là, viens dans mon truc ». Non, non, moi je te dis « Va, va ». Et quand tu dis à quelqu'un « Va », tu le libères. Et moi, ce soir, je vous dis, allez, allez, allez. La culture du royaume de Dieu repose sur le allez. Revisitez, s'il vous plaît, vos programmes. Revisitez votre façon d'organiser l'Église. Revisitez la façon même de décorer l'Église. Revisitez tout ce que vous faites en vous disant, mais est-ce que nous sommes dans le « venez » ou est-ce que nous sommes dans le « aller » ? Bon, ça risque de changer certaines choses. Allez, je termine. Termine. L'Église a besoin d'être délivré d'une chose. Si vous êtes dans le aller, vous avez besoin d'aller en étant délivré d'une chose. Cette chose, c'est il faut que toutes les églises, que tous les membres de l'église, que le pasteur et tout le monde soient désintéressés. On dit amen. Oui, but. Combien de fois j'ai entendu ? Alors, petite église quand même, ça serait bien qu'on ait plus de monde. Et alors même pour les finances, ça serait bien. Quelles sont nos motivations ? Si ma motivation, c'est que mon église grandisse, expliquez-moi si c'est une motivation qui est pure. Si ma motivation, c'est que les offrandes grandissent, expliquez-moi si votre motivation est pure. Notre but, c'est que ces personnes rencontrent Jésus. Béni soit Dieu pour ceux qui nous rejoignent. Mais ma motivation, c'est pas que l'Église grandisse. Ma motivation, c'est que cette personne rencontre Jésus. Et les églises ont besoin d'être délivrées. J'entends trop. Vous savez, je termine avec ça. On me citait une église qui avait pour slogan « Aimez les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent pourquoi ». Hello ? Il y a du monde dans la salle encore à 80 ans ? Aimer les gens d'une façon désintéressée. Mais aimez-les jusqu'au point où les gens vous demanderont pourquoi tu m'aimes comme ça. J'ai dépassé de 5 minutes. Je vais m'arrêter là. Nosek, viens mon ami. Georges, Antoine, viens. Viens. Moi je passe et je repars. C'est vous qui restez. C'est vous qui faites le boulot. Et c'est vous qui les bénissez. Vas-y. Je suis avec toi. Bénis-les. Bénis-les. Tu veux pas prier? On t'a pas appris à prier? Tu sais la prière que tu fais tous les soirs avant de te coucher, ben, c'est pas celle-là. Allez, on se lève. On se lève. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers le Seigneur et dire tout simplement ensemble, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur.